Chapitre 7. L'atrium au centre de Rosalind Franklin accueillait un jardin japonais où se mêlaient avec une minutie calculée des dalles de pierre qui servaient de chemin parmi les gravillons et la mousse, des bonsaïs géants de presque 2 mètres et de gros rochers blancs autour desquels serpentaient les minuscules rues du bassin où nageaient des carpes koi. Au-dessus, les 4 étages du plus gros des bâtiments de luxe 1 s'empilait via des balcons jusqu'au dôme de verre qu'arrosait copieusement Sphère et sa lumière dorée. La boule brillait sagement, comme une pierre précieuse au noyau étincelant. Romy était assise sur un des bancs dans le jardin lorsque le vieux Français en costume, celui qui était tout sec en nerfs et en rides, à peine coiffé de sa mousseline de cheveux blancs, s'approcha.
« C'est quoi déjà son nom ?»
Il causait peu, suivait tout le temps Mathéo Villon. Mais on pouvait remarquer ses yeux de fouine qui ne rataient rien de tout ce qui se racontait ou se faisait dans le périmètre du conseiller présidentiel.
« Maric !»«
Pardon pour le retard, » commença-t-il. « Je récupérais les dernières consignes. C'est moi qui vais vous prendre en charge. »«
Ah !»
fit Romy sans enthousiasme. « Un problème ?»«
Bah non. »«
C'est quoi cette tête ?»«
C'est que...
vous êtes pas le plus marrant de la bande. » La réplique était tellement culottée et inattendue qu'elle parvint à arracher un semblant de sourire à l'homme plus ridé qu'une momie.
« Faudra t'y faire.
Viens, je vais te montrer nos bureaux. »
Il l'entraîna vers les ascenseurs sans un mot.
Romy comprit que ce serait à elle d'animer la conversation si elle voulait qu'il y en ait une. « J'ai aperçu votre boss, Mathéo. Vous êtes combien de politiciens à bord ?»«
Juste lui et moi, et nous préférons diplomates.
Si ça merde, tu seras bien content de nous avoir, crois-moi. »
Il n'y a aucune raison d'être pessimiste.
Elle ignorait pourquoi, mais elle n'aimait pas les silences en sa compagnie. L'homme la mettait mal à l'aise. Comme il ne répondait rien, Romy tenta une autre banalité pour meubler. Il a de la gueule, l'atrium. On dirait le siège d'une multinationale, pas une plateforme maritime. Tu sens l'odeur ?
Ça pue le neuf.
Ils ont tout fait en urgence. Quelques semaines à peine pour démonter les préfabriqués d'origine et les remplacer par cette folie. C'est dingue ce qu'on peut obtenir quand on crache les milliards. Et dire qu'il y a encore 3 mois, toutes ces nations pleuraient qu'elles étaient fauchées.
L'enjeu exige de faire un effort, il me semble.
Le souhaiter, c'est une chose. Le faire, c'en est une autre quand les caisses sont vides. Demande aux familles qui galèrent pour boucler leur fin de mois.
Romy haussa les épaules. Comme quoi, les gouvernements, quand ils veulent, ils ont réussi, non ?
Maric se fendit d'un rictus amer.
Ça s'appelle de la dette, ma chère. C'est ce que les vieilles nations du monde produisent le mieux désormais. De la dette sur de la dette.
L'ascenseur s'ouvrit et ils entrèrent. Il pressa le bouton 3.
Si les banques prêtent, c'est qu'on est solvable, non ?
Ce sont les pays qu'on appelait émergents qui prêtent. On devrait dire néo-dominants, si on était honnête. Pays du Golfe, Chine et compagnie. Et qui n'ont plus le choix, surtout. À force de nous filer du pognon et de voir qu'on avait du mal à rembourser, ils ont été obligés de nous en prêter encore. Pour ne pas risquer notre ruine totale et qu'on ne puisse plus rien rembourser.
On les rembourse avec des nouveaux prêts qu'ils nous font.
En grande partie, oui. Au point d'avoir mis en péril leur propre économie si on devait disparaître.
Mais c'est débile. À terme, avec les taux d'intérêt, ça signifie que si notre croissance s'arrête, on sera incapable de payer. Ça nous oblige à toujours plus, ou tout le monde explosera en vol.
Maric lui adressa un clin d'œil cynique.
T'as tout pigé. Nos nations occidentales sont sous respirateur artificiel, et nos créanciers le seront s'ils arrêtent de nous alimenter avec leurs propres ressources. Bienvenue dans le 21e siècle, mademoiselle.
Ding !
Ils étaient arrivés. Maric désigna le couloir de droite et Romy s'y engagea.
Mais, si nous ne payons plus un jour, il va se passer quoi concrètement ?
Nos pays deviendront le tiers-monde. Toi et tes gosses, vous bosserez dans des usines dégueulasses pour fabriquer les godasses de ces gens à qui on a emprunté notre train de vie excessif depuis 70 ans.
En gros, c'est notre génération et les suivantes qui vont prendre pour vos conneries du passé.
Sympa, les gars.
Tu oublies que tu as bénéficié de la dette de tes parents et grands-parents et arrière-grands-parents. Tu n'aurais pas eu l'éducation que tu as reçue sans ça. Tu n'aurais pas eu les soins médicaux, la sécurité aussi. S'il n'y avait pas eu ce surendettement, le pays se serait effondré il y a longtemps et tu vivrais dans les décombres d'une gloire passée probablement annexée par une nation puissante. Nous serions forcés pour survivre de faire ce que nous imposions aux Africains autrefois,
aux gamins dans les usines en Inde ou ailleurs. T'as rien demandé, mais t'es bien contente d'avoir eu cette enfance dans un système en apparence serein et profitable pour ta petite personne.
Romy sentit qu'ils allaient dans une direction qui ne lui plaisait pas du tout. Mais elle ne voulait pas commencer sa relation professionnelle avec Marik en le traitant de vieux con. Alors elle opta pour l'esquive.
« Ok, et si on se rebelle contre les créanciers de notre dette ?»«
À la place de l'usine, t'auras la guerre. Ils sont 10 fois plus nombreux que nous. » »«
Quand je disais que vous étiez pas le plus marrant,
c'est la vérité qu'on n'ose pas raconter à nos peuples, c'est tout. Mais si tu préfères, je te baratine, hein, comme tout le monde. »
Il s'était arrêté devant une porte affichant une plaque « Media Office ». « En attendant d'aller au front, voici ton nouveau chez-toi, » annonça-t-il en entrant. « Je te fais la visite. »
Le département média était constitué de 5 petits bureaux, d'une salle de réunion et d'un studio de tournage accolé à une minuscule régie technique. Une dizaine de personnes les saluèrent pendant le rapide tour.
« Nous sommes 2 fois trop nombreux pour le job, mais personne n'a voulu lâcher pour laisser la fonction à seulement 4 ou 5 pays. » Ils savent tous que l'information, c'est le pouvoir.
Marik prépara 2 cafés, sans demander à Romy ce qu'elle buvait. Et il l'entraîna dans la salle de réunion, dont les fenêtres donnaient sur le parc central de Luxe 1 en contrebas. Il lui déposa un café sur la table, juste à côté d'un téléphone et d'un ordinateur portable, et exposa.
Voici tes instruments de travail. Ton boulot est simple. Tu dois faire piger aux jeunes ce qu'on fait ici. Rendre notre mission compréhensible, de façon didactique et fun. Tu filmes ce que tu veux, tu fais les commentaires que tu veux, faut juste que ça parle aux jeunes. C'est ta cible. Nous, on gère les médias tradis et les politiques. Toi, tu te focalises sur la faune de ton âge et les ados, via les réseaux sociaux. On sait que beaucoup d'entre eux passent par ça. T'as quel âge ?
20.
Parfait, tu connais encore les codes des plus jeunes.
Je peux vraiment faire comme je veux ?
Romy sentait l'excitation monter. Elle adorait cette autonomie. Elle tira une chaise pour s'y asseoir.
Yep. Et il a du réseau, ce téléphone, au moins ? Parce que le mien, c'est mort.
On s'occupera du réseau.
Bah, comment je fais pour poster si j'ai pas de...
Tu fabriques ton contenu et tu nous le transmets pour qu'on le poste.
Romy déchauffa d'un coup.
Waouh, ça veut dire quoi ? Que vous allez filtrer ? Choisir ce que vous publiez ou non dans ce que je fabrique ?
Marik se posta devant une fenêtre et montra les installations au dehors.
Tu vois tout ce bordel ? Ces milliards de dollars que ça coûte, et surtout les milliards d'yeux qui nous scrutent avec de l'espoir, des attentes, de la jalousie ou de la peur. Tu imagines l'impact sur tout ça si un de tes messages est maladroit ? S'il est mal formulé ou qu'un chercheur que tu as interviewé s'emballe et balance ce qu'il attend ou ce qu'il rêve plutôt que ce qu'il a vraiment trouvé jusqu'à présent ?
Les yeux de Marik revinrent sur la jeune femme. Ils étaient petits et froids, comme si toute émotion s'était dissipée en lui depuis très longtemps.
« On ne peut pas se permettre ce genre d'erreur, » dit-il.
Mais ce que les gens attendent, c'est de la spontanéité et surtout la vérité, sans les prendre pour des...
Qu'ils restent sur X, TikTok, Insta et autres merdes parallèles à la vraie vie s'ils refusent d'intégrer que la réalité est plus subtile que ça et qu'elle a parfois besoin de nuances.
Ah ouais, en effet. C'est mieux que ce ne soit pas vous qui gériez la com' vers les jeunes.
Hé, je te rappelle qu'on nous a imposé de te faire une place, ok ? Alors, sois un peu plus respectueuse.
Romy encaissa sans broncher. Elle comptait bien lui prouver que non seulement elle serait compétente, mais tellement investie qu'il finirait par lui offrir des excuses. Au moins de la reconnaissance, corrigea-t-elle.
On est au cœur de la géopolitique mondiale, reprit Marik d'un ton plus posé. Romy, beaucoup, beaucoup de susceptibilités sont à ménager ici. Tu sais ce que ça signifie en clair ?
Allez-y, illuminez-moi.
On est sous la chose qui attire le plus d'attention dans l'histoire de l'humanité. Attention et convoitise. Et pour parvenir à rassembler la plupart des pays sur ces plateformes et faire en sorte qu'ils s'entendent sans se trahir, c'est de la dentelle diplomatique permanente. Par peur des autres, parce que personne ne se fait véritablement confiance. Ils sont tous parano et la plupart pensent que celui qui tirera le premier remportera la mise alors que les autres se feront baiser. Tu saisis ?
Il s'était rapproché imperceptiblement de Romy. Et se tenait juste au-dessus d'elle à présent.
Nous sommes 10 parano, couverts d'essence avec une allumette à la main. Et il faut espérer que personne ne craquera la sienne. Alors oui, toute la com passe par ce bureau pour être inspectée et doublement validée avant publication. Parce que tes posts, ils peuvent se transformer en briquets à tout instant. Claire ?
Romy soupira.
Elle comprenait le message et, à vrai dire,
Elle le trouvait même sensé. Mais c'était la manière qui l'irritait. Elle n'aimait pas ce Marik. Il manquait de sensibilité pour un type qui professait la Troisième Guerre mondiale si on venait à en manquer. Mais n'était-ce pas le propre des dirigeants modernes que de manquer de tout ce qu'ils estimaient nécessaire pour empêcher le pire? Elle hocha la tête. Romy avait déambulé sur le pont principal de Luxin pendant une heure, pour se familiariser avec son espace. Une part d'elle ne tenait plus en place et réclamait qu'elle fonce tout voir, le plus vite possible, y compris et surtout les infrastructures de Luxe 2. Mais elle tenait bon. Il fallait procéder avec discipline. D'abord, bien connaître son environnement direct, il serait sa base. Puis elle élargirait le cercle pour progresser de plus en plus loin. Elle était passée par sa chambre récupérer René, qui était ravi de cette balade improvisée. Reniflait un peu partout, probablement surpris du manque d'odeur de ses congénères. Mais il suivait avec enthousiasme. Luxe 1 était somme toute facile à comprendre. Le parc au centre, Rosalinde, le plus gros des immeubles à l'est, il occupait à lui seul un tiers de la surface, tandis que Marie et Darwin se faisaient face à l'ouest, principalement pour servir d'habitation. Restait l'héliport en hauteur, dont la piste, invisible d'en bas, les dominait de plus de 40 mètres. Emmett Lloyd avait dit qu'il leur laissait la surprise de découvrir ce dont il s'agissait. Romy hésita. L'ascension devait se faire via un monte-charge, mais elle était tentée de trouver des marches pour s'imposer un peu d'exercice. Cela faisait une semaine qu'elle n'en faisait plus. Elle se ramollissait et cette idée la terrorisait. René la regardait avec bienveillance, toute langue dehors. L'escalier n'était pas une bonne idée pour lui. Il fallait ménager ses vieilles articulations. Tant pis, j'irai voir plus tard. Et si au lieu de monter, on descendait? T'en dis quoi? Le chien rentra sa langue, pencha la tête. Trop de mots, il était paumé. Romy pouffa. Allez, viens, Einstein. Romy se souvenait de cette silhouette aperçue hier soir sur un balcon du premier sous-sol. Elle avait envie de s'y rendre. Depuis l'intérieur de Darwin, on pouvait accéder au premier sous-sol où se trouvait la fosse, le bar américain. Mais est-ce que ça communiquait avec le reste des installations extérieures? Elle préférait un accès direct. Et justement, elle était passée une demi-heure plus tôt devant une rampe qui s'enfonçait vers le bas. Elle la retrouva, sur le côté de Marie Curie. Des marches en acier menaient à des coursives métalliques qui s'entremêlaient sous le niveau principal. Elle observa la réaction de René. « Tu te sens d'y aller avec moi ?» Intrigué, le chien dévalait déjà les marches. En bas, Romy trouva ce à quoi elle s'attendait. Un dédale technique qui donnait sur des molettes, vannes et cadrans de toute taille. Une sorte de vide sanitaire géant pour faire vivre Luxe 1. Certaines coursives filaient en plein air, d'autres ressemblaient à des tunnels, et toutes desservaient des locaux parfois étroits, parfois grands comme des hangars. C'était un labyrinthe. Mais Romy avait le sens de l'orientation et ne restait jamais perdue bien longtemps. À plusieurs reprises, la jeune femme remarqua d'autres passerelles grillagées en dessous, un deuxième sous-sol. Lorsque la paroi s'effaçait et que le couloir devenait une simple nacelle exposée au vent, Romy s'arrêtait pour observer la vue. Une mer saphir, aux profondeurs insondables à l'œil nu. La houle était faible et constante. Les pieds de Luxe, énormes, s'y enfouissaient. Et Romy se demanda comment tout ça pouvait tenir debout. Luxe semblait défier les lois de la gravité avec une stabilité surprenante. Les flotteurs devaient être gigantesques dans cette eau rendue opaque par l'ombre de la plateforme. René, lui, avait la truffe en l'air, savourant la brise tiède. Il faisait plus que doux. Un simple t-shirt suffisait en journée. Les après-midi de canicule, l'idée de piquer une tête devait être tentante, même si se baigner à côté des grosses jambes grises de Luxe devait avoir un côté un peu flippant, songea Romy. C'était toutefois une expérience qu'elle devrait tenter un de ces jours. Elle se remit en marche en quête de son balcon. Ce n'était pas très difficile. Il était dans l'axe de la façade ouest de Darwin, là où se trouvait sa chambre. Elle ne devait plus être loin lorsqu'elle tomba sur une porte magnétique fermée. Elle posa son badge contre l'électeur et la lumière s'alluma, non pas en vert, mais en rouge. Étonnée, Romy insista pour le même résultat. Psst ! Sifflement surpris. Il y avait donc des zones à accès restreint à bord. Pour un lieu de recherche internationale, à vocation pacifique, elle trouvait cela intriguant, voire un peu suspect. « Qu'est-ce qu'il cache d'après toi ? » demanda-t-elle à René. La voix de la raison lui murmura que ce devait être juste la partie technique sensible, réglementée pour éviter tout accident. Une autre voix, plus cynique, envisagea qu'il n'y ait peut-être pas un seul et unique niveau de connaissance et de démocratie en ces lieux. Certaines personnes en savaient plus que la majorité et décrétaient qu'il y avait le droit à la vérité et d'y accéder.
Et tu crois quoi? Qu'est-ce qu'ils vont cacher à bord d'un vaste laboratoire qui a vocation à percer le secret du plus grand mystère de l'histoire de l'humanité?
Romy mémorisa l'endroit. En fidèle adepte de l'exploration urbaine, curieuse comme une pie,
une vilaine pie, aurait dit ma mère,
et incapable d'obéir à des restrictions qu'elle trouvait iniques, elle n'en resterait pas là. Elle pointa le doigt vers René.
« Toi, tu dis rien à personne. Mais on reviendra. Faut juste trouver comment on entre. »